Alors, une autre expression, si tu l'as évoquée, c'est l'expression d'un sanctuaire. Vous voyez? La conscience est notre sanctuaire. Alors, vous comprenez ça comment? Comment vous pouvez accepter de dire que la conscience, c'est le sanctuaire du Christ? Vous comprenez ça comment? Est-ce que ça vous choque, ce genre d'expression? Hein? Vous allez voir, la réponse, elle est assez simple. Est-ce que la conscience, c'est le sanctuaire du Christ? Pour vous, est-ce que c'est une expression qui vous choque?
Moi, ça ne me choque pas, mais si on prend que la conscience, c'est l'esprit. Si on voit le corps et l'âme, l'esprit, et le corps et l'âme qui sont vraiment orientés. Enfin, c'est dans la tradition orientale.
Oui, tout à fait.
Et à ce moment-là, ben, évidemment, nous sommes le temple du Christ, corps et âme, esprit, mais particulièrement l'esprit, qui est lui,
Ouais, donc la conscience, c'est l'esprit. Bon, donc. Voilà, alors là, vous avez en résumé toute l'anthropologie de saint Augustin. Donc, on va simplifier. On va simplifier, je pense. Donc, le corps, l'âme, l'esprit. Corps, âme, esprit. On a un corps toujours relié à une âme, et au fond de l'âme, il y a l'esprit. Au cœur de l'esprit, il y a en nous des puissances stables, c'est-à-dire hein, la capacité de toujours poser un acte, voyez, la volonté, l'intelligence, la mémoire. Au cœur de notre esprit, il y a ça. Et au cœur de notre esprit, puisqu'on est créé à l'image de Dieu, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc quand on dit la conscience, c'est le sanctuaire de Dieu, c'est qu'au cœur même de l'esprit que tu as utilisé, il y a ce surgissement du Saint-Esprit. Comme dit Thérèse d'Avila, l'esprit c'est quoi? C'est la fenêtre de l'âme ouverte sur Dieu. Voilà. Donc, la conscience, c'est un sanctuaire, c'est-à-dire c'est un réceptacle. Et l'analogie avec des bâtiments religieux est très claire. Qu'est-ce qui fait la richesse d'une église? Qu'est-ce qui fait le caractère sacré d'une église? C'est le tabernacle. Donc le sanctuaire accueille le tabernacle. Hein? Le sanctuaire s'identifie d'une certaine manière au tabernacle. Mais c'est le tabernacle qui donne la dimension sacrée à une église. Dans une église qui brûle, au-delà des tableaux, tout ça, ce qui fait mal, c'est lorsqu'on sait que le corps du Christ a brûlé. Vous voyez? À La Réunion, vous avez déjà, je crois que c'est à La Réunion. Il y a eu une coulée de lave qui est arrivée près d'une petite chapelle. Et la coulée de lave, elle a brûlé tout, tout, tout partout. Et lorsqu'elle est arrivée d'une toute petite chapelle, elle a contourné la chapelle. Bon. Et là, on se dit, c'est magnifique. Bon, c'est peut-être le pur hasard des hasards. Mais vous voyez, ce qui fait le cœur de notre cœur, c'est que Dieu est là, s'offre à nous et y est présent. Très bien. Ça ne veut pas dire qu'on va se prendre pour le tabernacle. La grande tentation des gens qui disent, oh ben si moi je suis sanctuaire de Dieu, ben on va finir par se prendre pour le bon Dieu. Alors que en chacun de nous, il y a un lieu si précieux qui fait que la présence de Dieu est réellement présente en nous. Et qu'on est capable de Dieu, capax Dei, capable de recevoir Dieu. Mais nous-mêmes, immédiatement. Et voilà, l'Église vient après éclairer pour vérifier que ce qui est immédiatement rencontré, comme deux personnes qui s'aiment, ben on vérifie dans le temps et dans un dialogue avec l'Église pour savoir si c'est un amour authentique. Hein. Parce qu'on peut vite s'emballer, prendre Dieu pour ses propres illusions. Hein. Même chose en amour. Hein. On peut avoir tellement d'émotions ressenties qu'on se dit, bah, c'est l'amour de ma vie. L'amour de la vie, il s'éprouve dans le temps, dans le caractère gratuit de la relation, dans la capacité de dialogue approfondi, dans vraiment la volonté de vouloir le bien de l'autre, comme il le veut, etc. Donc, autre expression. nous sommes le sanctuaire de Dieu, sanctuaire du Christ. Voilà. La conscience est le sanctuaire, l'écho de la voix de Dieu, premier vicaire du Christ, messagère de ta-ta-ti-ta-ta-ta. Une autre expression célèbre de Newman, dans son livre Apologia, il dit « Moi-même et mon Créateur. » Moi-même et mon Créateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la rencontre de Dieu ne peut pas se faire en dehors d'une rencontre avec son intériorité profonde. On serait tenté, vous voyez, de, comme le disaient les grands-mères, vos arrière-grands-mères plutôt, au début du siècle dernier, qui disaient à leurs petits-enfants, qui arrivaient vers la grand-mère, qui disaient « Grand-mère, moi je veux que... » Et la grand-mère répondait « Mon petit, moi je est un imbécile. » C'est ça, hein, c'est ça les grand-mères du début du siècle, qui est marquée par un jansénisme profond. « Mon petit, moi je est un imbécile. Dis-moi maintenant ce que tu veux. » Vous voyez ce côté un peu moralisant, etc. Alors que c'est au cœur même de ce qui nous fait le plus être nous-mêmes, notre conscience, que le Créateur, que le Dieu vivant va témoigner de sa présence. Donc, moi-même et mon Créateur, loin d'être une forme d'individualisme, cette affirmation de soi signifie que l'homme s'identifie à un sentiment de possession de soi pour rencontrer de Dieu. Voyez. Pour vraiment rencontrer de Dieu, il faut avoir éprouvé son humanité humaine, son humanité. Entre guillemets, pour vraiment rencontrer Dieu, il faut être l'accueillir dans l'épaisseur de notre humanité. On n'a pas à faire l'ange pour accueillir Dieu. On n'a pas à se couper de notre éros pour rencontrer l'agapé. On n'a pas à séparer la nature de la grâce. C'est au cœur même de notre désir le plus profond que Dieu va se révéler. C'est au cœur même de nous-mêmes que Dieu se révèle comme Dieu et nous fait devenir des fils de Dieu. Voilà. On est appelé à devenir des fils de Dieu. Ce qui compte pour Newman, c'est de saisir l'intériorité de son moi avant toute forme de discours sur Dieu. Intéressant ça. De saisir l'intériorité de son moi, de son être, de sa conscience, avant d'avoir un discours théologique sur tac-tac Dieu, tata. L'important c'est la rencontre. C'est la vérité qui traverse mon existence. Et c'est pas simplement le discours parfaitement théologique, doctrinal, c'est très bien, mais ça c'est second par rapport à la rencontre. Et ça on l'a bien compris d'un point de vue pastoral aujourd'hui, où c'est l'expérience de Dieu qui va être le lancement de après cet approfondissement de la vie chrétienne à travers notamment l'étude et le catéchisme. Voilà. Donc ce qui compte avant tout, c'est la saisie de son intériorité. L'homme doit d'abord se mettre en quête de son intériorité, de la profondeur de son cœur. L'homme qui est entré en lui-même vit la réalité de son mystère. Il ne peut plus échapper à son moi sans se trahir. Dans la fidélité à sa conscience, il s'ouvre à Dieu et à autrui, etc. À Dieu comme mystère. Donc au cœur de notre mystère, je rencontre Dieu comme mystère. Mais si moi-même, je n'ai pas un rapport à moi-même comme la découverte de ce mystère que je suis, comment pourrais-je rencontrer Dieu comme mystère ? Entre guillemets, on ne met pas Dieu en équation. On rencontre Dieu. Voilà. Pour après le nommer selon le langage que m'apprend l'Église pour dire ça c'est Dieu, ça c'est pas Dieu. Parce que vous savez, on est vite hérétique. Hein. D'ailleurs, je vais vérifier si vous êtes hérétique. Posez une question. Dans le Christ, il y a combien de natures? 1, 2, 3, 4. Une nature. Alors, combien? Zéro nature. Une nature. Nature. Deux natures. Trois natures. Deux natures. Dans le Christ, il y a combien de personnes? Hein? Très bien. Dans le Christ, donc il y a une personne, deux natures. Dans le Christ, il y a combien de volontés? 0, 1, 2, 3? Alors 0. 1, 2, 3, 2. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a deux volontés. Il y a deux volontés. Les volontés procédant, les puissances procédant de la nature. Voilà. Bon, ben c'est pas mal. Hein? Il y en a parfois qui disent qu'il n'y a qu'une volonté, c'est vrai. Alors, vous savez, on se prépare à Pâques. Comment le Christ nous sauve? Est-ce qu'il nous sauve? Il nous sauve avec quoi, le Christ? Il nous sauve avec quelle volonté? La volonté humaine ou la volonté divine? Ouais. Alors, à Gethsémani, ça se passe comment? Non, mais à Gethsémani, voilà, le Christ arrive, il va à Gethsémani. Il dit, Père, hein, non, je ne veux pas, hein, non pas cette coupe, et ensuite, il dit, Père, hein, que ta volonté soit faite. Alors, quand il dit, non pas cette coupe, qu'est-ce qu'il dit ça en lui? Hein? C'est sa chair qui ne veut pas mourir. Réaction naturelle de la loi naturelle dans le Christ. Après, lorsqu'il dit hein, que ta volonté soit faite, il le dit avec sa volonté humaine ou avec sa volonté divine? Avec sa volonté humaine. Parce que s'il le disait avec sa volonté divine, on serait pas sauvé. On serait pas sauvé? Il nous sauve en disant oui en tant qu'homme à la volonté divine, qui est la même, bien sûr, que celle de son Père. Parce qu'ils hein, ils sont trois dieux en une personne. Non, trois personnes pour un même Dieu. Bon, caméra. Hein. Ce que je veux dire, c'est intéressant de voir que quand le Christ nous sauve, son cheminement, c'est toute l'adhésion de sa volonté humaine à la volonté de Dieu. Et c'est ça qui trace ce chemin de salut qu'il nous transmet et que nous pouvons suivre. Que notre volonté humaine suive quoi? Le cœur de notre conscience qui accueille la volonté de Dieu sur nous. Et c'est cette rencontre entre notre volonté humaine et la révélation de Dieu au cœur de notre conscience qui trace en nous un profond chemin de salut.